La substitution capital-travail au XXIe siècle, une élasticité supérieure à 1. Commençons par examiner les insuffisances du modèle Cobb-Douglas pour ce qui concerne les évolutions de très long terme. Sur très longue période, l'élasticité de substitution entre travail et capital paraît supérieure à 1. Une hausse du rapport capital-revenu bêta semble conduire à une légère hausse de la part du capital alpha dans le revenu national. Et inversement. Intuitivement, cela correspond à une situation où il existe beaucoup d'usages différents pour le capital dans le long terme. De fait, les évolutions historiques observées suggèrent qu'il est toujours possible, tout du moins jusqu'à un certain point, de trouver des choses utiles et nouvelles à faire avec du capital. De nouvelles façons, par exemple, de construire ou d'équiper les logements. On peut penser à des capteurs solaires ou numériques dans les murs ou sur les toits, des équipements robotiques ou électroniques toujours plus sophistiqués, ou bien des technologies médicales utilisant toujours plus de capital, sans aller jusqu'à la situation d'une économie totalement robotisée où le capital se reproduit tout seul, ce qui correspond à une élasticité de substitution infinie. Voici à quoi correspond une économie avancée et diversifiée dans ses usages du capital, caractérisée par une élasticité de substitution supérieure à 1. Évidemment, il est très difficile de prévoir jusqu'à quel point l'élasticité de substitution capital-travail sera supérieure à 1 au cours du XXIe siècle. Sur la base des données historiques, on peut estimer une élasticité comprise entre 1,3 et 1,6. Mais outre qu'il s'agit d'une estimation relativement incertaine et imprécise, il n'y a aucune raison que les technologies de l'avenir se caractérisent par la même élasticité que celle du passé. La seule chose qui semble relativement bien établie est que la hausse tendancielle du rapport capital-revenu bêta, observée dans les pays riches au cours des dernières décennies et qui pourrait s'étendre à l'ensemble de la planète au cours du XXIe siècle en cas d'abaissement généralisé de la croissance, en particulier démographique, peut fort bien s'accompagner d'une hausse durable de la part du capital alpha dans le revenu national. Certes, il est probable que le rendement du capital R s'abaissera au fur et à mesure que le rapport capital-revenu bêta augmentera. Mais sur la base de l'expérience historique, le plus probable est que l'effet volume l'emportera sur l'effet prix, c'est-à-dire que l'effet d'accumulation l'emportera sur la baisse du rendement. De fait, les données disponibles indiquent que la part du capital a progressé dans la plupart des pays riches au cours de la période 1970-2010, au fur et à mesure que le rapport capital-revenu augmentait. Voir graphique 6.5. Il faut toutefois souligner que cette évolution à la hausse est cohérente non seulement avec une élasticité de substitution supérieure à 1, mais également avec une amélioration du pouvoir de négociation du capital vis-à-vis du travail au cours des dernières décennies, dans un contexte de mobilité croissante des capitaux et de concurrence croissante entre États pour attirer les investissements. Il est probable que les deux effets se sont renforcés mutuellement durant les dernières décennies, et il est possible qu'il en aille de même à l'avenir. En tout état de cause, il est important d'insister sur le fait qu'aucun mécanisme économique autocorrecteur n'empêche qu'une hausse continue du rapport capital-revenu bêta s'accompagne d'une progression permanente de la part du capital dans le revenu national alpha. Les sociétés agricoles traditionnelles, une élasticité inférieure à 1. Nous venons de voir que les économies contemporaines semblent se caractériser par d'importantes possibilités de substitution capital-travail. Il est intéressant de noter qu'il en allait tout à fait différemment dans les économies traditionnelles fondées sur l'agriculture et où le capital prend principalement la forme de terres agricoles. Les données historiques dont nous disposons suggèrent très clairement que l'élasticité de substitution était nettement inférieure à 1 dans les sociétés agricoles traditionnelles. En particulier, c'est la seule façon d'expliquer pourquoi les États-Unis d'Amérique, en dépit d'un volume de terres bien supérieur au niveau observé en Europe, se caractérisaient au XVIIIe et XIXe siècle par une valeur des terres bien inférieure, telle que mesurée par le rapport capital-revenu, ainsi que par des niveaux de rente foncière et de part de capital dans le revenu national nettement plus bas que dans l'Ancien Monde. C'est d'ailleurs la logique même. pour que des substitutions capital-travail importantes puissent exister, encore faut-il que le capital puisse prendre différentes formes. Pour une forme donnée, en l'occurrence les terres agricoles, il est inévitable qu'au-delà d'un certain point, l'effet prix l'emporte sur l'effet de volume. Si quelques centaines de personnes disposent d'un continent entier à cultiver, alors il est logique que le prix de la terre et de la rente foncière tombe à des niveaux quasi nuls. Il n'existe pas de meilleure illustration du principe « trop de capital tue le capital » que la comparaison entre la valeur des terres agricoles et de la rente foncière dans le Nouveau Monde et dans la vieille Europe. Le capital humain est-il une illusion ? Venons-en maintenant à une question tout à fait centrale. La montée en puissance du capital humain au cours de l'histoire est-elle une illusion ? Plus précisément, selon une vision relativement répandue, le processus de développement et de croissance économique se caractériserait par le fait que les qualifications, les savoir-faire, et plus généralement le travail humain, seraient devenus de plus en plus importants au cours du temps, au sein du processus de production. Même si cette hypothèse n'est pas toujours formulée de façon totalement explicite, une interprétation raisonnable est que la technologie s'est transformée d'une façon telle que le facteur travail joue maintenant un plus grand rôle. De fait, il semble plausible d'interpréter de cette façon la baisse de la part du capital observée sur très longue période, de 35-40% vers 1800-1810 à 25-30% vers 2000-2010, et la hausse correspondante de la part du travail de 60-65% à 70-75%. La part du travail a augmenté tout simplement parce que le travail est devenu plus important dans le processus de production. C'est la montée en puissance du capital humain qui a permis de réduire la part du capital terrien, immobilier et financier. Si cette interprétation est correcte, il s'agit effectivement d'une transformation tout à fait significative. Il faut cependant être prudent. D'une part, comme nous l'avons déjà noté, nous manquons de recul pour juger pleinement de l'évolution à très long terme de la part du capital. Il est tout à fait possible que la part du capital remonte dans les décennies qui viennent vers ces niveaux du début du 19e siècle. Cela peut se produire soit parce que la forme structurelle de la technologie et l'importance relative du travail et du capital n'a en réalité pas véritablement changé, et que ce sont plutôt les pouvoirs de négociation du travail et du capital qui ont évolué, soit parce que la forme structurelle a légèrement changé, ce qui nous semble le plus plausible, mais que la hausse du rapport capital-revenu conduit naturellement la part du capital à se diriger vers ses sommets historiques, voire à les dépasser, compte tenu du fait que l'élasticité de substitution capital-travail semble supérieure à long terme. C'est peut-être là l'enseignement le plus important de notre enquête à ce stade. La technologie moderne utilise toujours beaucoup de capital, et surtout la diversité des usages du capital fait que l'on peut accumuler énormément de capital sans que son rendement s'effondre totalement. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison naturelle pour que la part du capital diminue à très long terme, même si la technologie s'est transformée dans un sens plutôt favorable au travail. D'autre part, et surtout, il faut être prudent pour la raison suivante. Cette éventuelle baisse à long terme de la part du capital, de 35-40% à 25-30%, qui nous semble dans le fond assez plausible, est certes tout à fait significative. Mais il ne s'agit pas d'un changement de civilisation. Les niveaux de qualification ont évidemment fortement progressé au cours des deux derniers siècles. Mais le stock de capital immobilier, industriel, financier, a également énormément progressé. On s'imagine parfois que le capital aurait disparu, que nous serions passés, comme par enchantement, d'une civilisation fondée sur le capital, l'héritage et la filiation, à une civilisation fondée sur le capital humain et le mérite. Les actionnaires bedonnants auraient été remplacés par les cadres méritants, simplement par la grâce du changement technologique. Nous reviendrons sur cette question quand nous étudierons dans la prochaine partie les inégalités de la répartition des revenus et des patrimoines au niveau individuel. Il nous est impossible d'y répondre correctement à ce stade. Mais nous en savons déjà assez pour mettre en garde contre un optimisme aussi béat. Le capital n'a pas disparu, tout simplement parce qu'il est toujours utile, à peine moins sans doute qu'à l'époque de Balzac et d'Austin, et peut-être même le sera-t-il plus encore dans l'avenir. Les mouvements du partage capital-travail dans le moyen terme. Nous venons de voir que l'hypothèse Cobb-Douglas d'une complète stabilité du partage capital-travail ne permettait pas de rendre compte de façon totalement satisfaisante des évolutions à long terme du partage capital-travail. Il en va de même, et peut-être même davantage encore, pour ce qui concerne les évolutions de court et de moyen terme, et qui peuvent parfois s'étaler sur des périodes relativement longues, en particulier du point de vue des contemporains qui en font partie. Le cas le plus important, déjà évoqué dans l'introduction, est sans doute celui de la hausse de la part du capital pendant les premières phases de la révolution industrielle, des années 1800-1810 aux années 1850-1860. Au Royaume-Uni, où les données sont les plus complètes, les travaux historiques disponibles, en particulier ceux de Robert Allen, qui a baptisé « Angel's Pause », cette longue stagnation salariale, suggèrent que la part du capital a progressé de l'ordre de 10 points de revenu national, passant d'environ 35-40% à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle à 45-50% au milieu du XIXe siècle, au moment où est rédigé le Manifeste communiste et où Marx s'attelle à la rédaction du Capital. D'après les données dont nous disposons, il semblerait que cette hausse ait été approximativement compensée par une baisse comparable de la part du capital au cours des années 1870-1900, puis par une légère hausse en 1900-1910, si bien qu'au final, la part du capital n'était sans doute pas très différente à la Belle Époque que pendant la période révolutionnaire et napoléonienne. Voir graphique 6.1. On peut donc parler de mouvement de moyen terme et non de mouvement durable de long terme. Il n'en reste pas moins que ce transfert de 10 points de revenu national au cours de la première moitié du XIXe siècle est tout sauf négligeable. Concrètement, l'essentiel de la croissance de la période est allé au profit, et les salaires, objectivement misérables à l'époque, ont stagné. D'après Allen, cette évolution s'explique avant tout par l'afflux de la main-d'œuvre provoquée par l'exode rural, ainsi que par des transformations technologiques augmentant structurellement la productivité du capital dans la fonction de production. Les caprices de la technologie, en somme. Les données historiques disponibles pour la France suggèrent une chronologie similaire. En particulier, toutes les sources indiquent une grande stagnation des salaires ouvriers au cours de la période 1810-1850, alors même que la croissance industrielle bat son plein. Les données rassemblées par Jean Bouvier et François Furet, à partir des comptes de grandes sociétés industrielles françaises du XIXe siècle, confirment également cette chronologie. Hausse de la part des profits jusqu'en 1850-1860, baisse entre 1870 et 1900, nouvelle hausse en 1900-1910. Les données disponibles pour le XVIIIe siècle et la période de la Révolution française suggèrent également une hausse de la part de la rente foncière dans les décennies précédant la Révolution, ce qui paraît cohérent avec les observations d'Arthur Young sur la misère des paysans français, et de fortes hausses de salaire entre 1789 et 1815, qui semblent s'expliquer à la fois par les redistributions de terres et la mobilisation de main-d'œuvre liée au conflit militaire. Vu de la Restauration et de la monarchie de Juillet, la période révolutionnaire et napoléonienne laissera ainsi un bon souvenir aux classes populaires. Afin de bien se rendre compte que ces incessants mouvements de court et moyen terme du partage capital-travail se retrouvent à toutes les époques, nous avons également indiqué sur les graphiques 6.6 à 6.8 l'évolution annuelle du partage capital-travail en France de 1900 à 2010, en séparant d'une part l'évolution du partage profit-salaire de la valeur ajoutée des entreprises, graphique 6.6, et d'autre part l'évolution de la part des loyers dans le revenu national, graphique 6.7. La valeur ajoutée d'une entreprise est définie comme la différence entre ce que lui rapportent ses ventes de biens et services, montant appelé chiffre d'affaires en comptabilité française, sales revenue en anglais, et ce que lui coûtent ses achats à d'autres entreprises, montant appelé consommation intermédiaire. Comme son nom l'indique, cette somme mesure la valeur que l'entreprise a ajoutée au processus de production. La valeur ajoutée permet de payer la masse salariale et le reliquat constitue par définition les profits de l'entreprise. L'étude du partage capital-travail se limite trop souvent à celle du partage profit-salaire, ce qui revient à oublier les loyers. On notera en particulier que le partage profit-salaire a connu trois phases bien distinctes depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une forte hausse de la part des profits de 1945 à 1968, puis une baisse extrêmement prononcée de la part des profits de 1968 à 1983. Et enfin, une remontée très rapide à partir de 1983 et une stabilisation à compter du début des années 1990. La part des profits bruts dans la valeur ajoutée brute des entreprises est passée de 25% en 1982 à 33% en 2010. Nous reviendrons dans les prochains chapitres sur cette chronologie très politique quand nous étudierons la dynamique des inégalités de revenus. On remarquera la hausse continue de la part des loyers depuis 1945, qui est passée de 2% du revenu national en 1948 à 10% en 2010. Ce qui implique que la part du capital, considérée dans son ensemble, a continué de progresser au cours des années 1990-2010, en dépit de la stabilisation de la part des profits. La part des revenus du capital, profits et loyers nets, est passée de 15% du revenu national en 1982 à 27% en 2010.